Bonjour.
C'est la deuxième table ronde de la journée qui s'intitule Comment penser les conflits. S'il y a un machiavélisme, s'il y a un isme lié à Machiavel, c'est bien qu'il y a des gestes propres à Machiavel, on peut dire, qu'on peut interpréter autrement, mais qu'on associe à sa pensée. On peut citer par exemple les gestes par lesquels, les gestes fameux du chapitre 15 du Prince, par lesquels il met en cause, ou pour mieux dire, il écarte. Les républiques ou les royaumes imaginaires. C'est un geste problématique qu'on essaie de discuter. Mais il y a bien sûr les cas du rapport au conflit, d'un changement du statut du conflit ou de la désunion, où on connaît bien le chapitre 4 du livre de discours. Et on dit souvent que c'est par Machiavel que les conflits vont assumer un autre rôle dans la pensée politique, un rôle positif. Évidemment, la question se pose des critères de conflit, et c'est pourquoi, en tout cas, une table ronde consacrée à comment penser les conflits est éminemment une table ronde machiavélienne et qui prolonge la problématique machiavélienne. Donc, je passe pour commencer la parole à Philippe Reynaud pour une intervention intitulée Heure et malheur de la raison d'État. Si je ne me trompe pas, il y a 15 ans, Philippe avait consacré un texte assez profond, je trouve, qui s'intitule « À question du rapport entre la philosophie politique et l'Europe », qui s'intitulait « De l'humanité européenne à l'Europe politique », où il disait, à la fin de cet article, que l'Europe actuelle risquait de perdre la dimension machiavélienne qui était une des parties de son histoire, et en tout cas de sa perspective politique sur le monde. Donc c'est évidemment avec plaisir que je lui passe la parole pour continuer notre réflexion à la fois aronienne et machiavélienne. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Giulio, de cette présentation aussi sympathique qu'éclairée, qui a le mérite d'ailleurs d'annoncer tout de suite ce qui est un peu la conclusion de mon papier. Et comme j'aurai peut-être pas le temps d'y parvenir, ça tombe bien. Alors j'ai, outre le fait que je n'ai, comme dit Pascal, je n'ai pas eu assez de temps pour faire court, donc je serai du coup obligé de m'abréger. J'ai d'autres excuses à présenter, dont la principale est que je ne parlerai pratiquement pas de Machiavel, parce que, en fait, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure, je crois que si on s'intéresse aux origines historiques de la notion de raison d'État, une certaine convention historiographique l'a fait remonter aux thèses de Machiavel dans Le Prince, parce qu'il aurait le premier exprimé l'idée que l'intérêt supérieur de l'État ou du prince peut exiger l'emploi de moyens, la ruse, la violence, le mensonge, etc., qui sont soit réprimés par le droit, soit condamnés par la morale. Je crois que c'est une généalogie trop simple, mais donc je n'entrerai pas dans le débat sur la formation de la notion, qui nous entraînerait trop loin. Je rappellerai simplement ce qui se joue dans la notion moderne de raison d'État, en rappelant pourquoi elle entretient, me semble-t-il, un rapport intime avec la formation de l'État moderne comme puissance souveraine. Et ensuite, je proposerai quelques réflexions plus directement politiques. Donc, en clair, je voudrais d'abord rappeler brièvement ce qu'on peut appeler les caractères permanents de la raison d'État. Deuxièmement, circonscrire ce qu'on pourrait appeler le champ d'application de la raison d'État. Troisièmement, proposer quelques réflexions sur la place de la raison d'État dans différentes cultures politiques, disons démocratiques pour simplifier, notamment celle de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et si j'ai encore quelques minutes, j'en reviendrai à mon sujet, c'est-à-dire la situation actuelle de la raison d'État entre déclin et renaissance. Alors d'abord, les caractères permanents, pour lesquels on peut s'appuyer, à mon avis, sur le bon article d'Yves Charles Orca, Raison d'État, dans le dictionnaire de philosophie politique, qui dégage, je le commente librement, j'essaye d'étendre un peu ce qu'il dit, quatre caractères permanents. Premier caractère, c'est l'idée d'un droit de la nécessité qui autorise une dérogation au droit établi en fonction d'un intérêt supérieur de l'État, intérêt supérieur de l'État qui se traduit en l'occurrence par un droit supérieur de celui qui a en charge la direction de l'État. Il n'y a pas de théorie de la raison d'État sans théorie qui attribue une position éminente à l'intérieur du pouvoir d'État à un acteur ou un groupe d'acteurs particulier. Deuxièmement, il s'agit bien de raison d'État et pas de n'importe quoi, parce qu'il y a une rationalité supposée de la raison d'État. Elle ne se confond pas avec le droit du plus fort, elle ne se présente pas comme cynique. Elle évoque une raison qui serait supérieure à la raison commune, qui n'est pas accessible au grand nombre ou même aux autorités qui, traditionnellement, ont pour tâche de dire le droit. Alors, par rapport à cette question des rapports entre raison d'État et droit ou État de droit, je dirais que la raison d'État a peut-être et même sans doute besoin de légistes au sens de Philippe le Bel, mais elle ne fait pas toujours bon ménage avec les juristes ou avec les magistrats. Sa force n'est pas la force brute, par ailleurs, et c'est parce qu'elle n'est pas la force brute qu'elle est plus intimidante et, pour les libéraux ou les démocrates, plus exaspérante. Le troisième caractère, bien entendu, c'est la dimension du secret. L'idée de raison d'État implique que l'art de gouverner est un art de la dissimulation, qui est également un art de la domination. Cette domination use en fait davantage, plus encore de la ruse que de la force. La raison d'État, je crois, il faut insister sur ce point, est de nature peu chevaleresque, comme le montre après tout dans l'histoire la figure fondatrice de Richelieu dans son conflit avec la noblesse traditionnelle. On n'a pas besoin de partager la vision qu'Alfred de Vigny avait du grand cardinal, pour voir que l'éthique de la raison d'État naissante, ou même épanouie à l'époque de Richelieu, n'est pas une éthique aristocratique traditionnelle, et notamment qu'elle se situe du côté de la ruse plutôt que à certains écarts, et pas seulement de la force. D'un autre côté, cette ruse ne se présente pas seulement comme un art de la dissimulation, parce qu'elle joue également très largement sur l'idée que la majesté du pouvoir inclut une forme de mystère. La raison d'État fait signe vers une mystique de l'État. Alors là encore, la période de Richelieu est intéressante. Le Richelieu de la raison d'État est également un théologien chrétien. Et son conseiller, le père Joseph, on le sait par les historiens, est un mystique fervent, aussi surprenant que cela paraisse. Alors en l'occurrence, cela veut dire que la raison d'État a rapport avec les arcana imperi, les secrets du pouvoir, les secrets de l'Empire, qui visent à conserver la forme de la République, mais qui se confondent à un certain moment avec les arcana dominationis, qui visent la conservation non seulement de la République, mais des détenteurs du pouvoir. La raison d'État, par ailleurs, repose largement sur l'idée que pour parler comme Pascal ou déjà comme Montaigne, même si on oppose souvent Montaigne à Machiavel, l'origine de la loi est ultimement arbitraire. L'origine de la loi a quelque chose à voir avec le fondement mystique de l'autorité qui se trouve dans la domination et dans le fait de la domination. Quatrièmement, enfin, si la raison d'État promeut la ruse au détriment de la force, elle n'en fait pas moins usage de la violence, c'est-à-dire d'une force qui agit au-delà de la légalité. C'est même, d'ailleurs, je le rappelle, mais tout le monde le sait, le sens premier de la notion de coup d'État, chez pas quelqu'un comme Gabriel Naudet, par exemple. Le coup d'État, au sens originel, ça n'est pas la prise illégale du pouvoir, c'est l'action souveraine du prince en vue du bien public, en vue de la conservation de l'État. Le modèle classique de l'acte de raison d'État auquel se renvoie Naudet, c'est la Saint-Barthélemy qui sera célébrée trois siècles après. La Saint-Barthélemy, je crois, c'est 1639, à peu près trois siècles après. On en trouve une apologie dans le roman de Balzac, le petit récit de Balzac sur Catherine de Médicis, qui est très intéressant parce qu'il le défend comme un acte de raison d'État et pas comme un acte de religiosité catholique. Alors, deuxièmement, quelques réflexions sur le champ d'application de la raison d'État, qui est supposé, là on peut difficilement éviter, quoi qu'on en pense par ailleurs, les formules schmittiennes, le domaine proprement politique, disons proprement du politique et pas de la politique, le domaine dans lequel la survie de l'État est en jeu. Alors, je crois que ce qu'on peut dire, c'est un peu schématique, mais les contraintes de temps sont telles qu'on est obligé de l'être, c'est que la raison d'État nous renvoie à la genèse de l'État moderne et me conduit à proposer une rectification du discours dominant sur la naissance de la politique moderne. Dans le discours libéral, disons, ou au sens large, la genèse de la politique moderne, c'est essentiellement la genèse des droits de l'homme, qui auraient été innucléaux dans les premiers moments de l'État, etc., mais qui constituerait la vérité de la politique moderne. Je crois que là, il vaut mieux écrire cette histoire en disant que ce qui caractérise la modernité naissante, c'est la combinaison entre le progrès du droit conçu comme coexistence des libertés, qui est d'ailleurs l'idée de Hobbes, et la puissance de l'État comme garantie de l'effectivité du droit, et peut-être d'ailleurs comme source ultime du droit. Autrement dit, les pouvoirs légitimes de l'État incluent la capacité de l'État ou d'une de ses composantes à décider de l'exception dans certaines circonstances, et c'est cela qui dessine ou définit la place de ce qu'on appelle communément la raison d'État. Dans le contexte du libéralisme naissant, cette suprématie temporelle ou exceptionnelle d'une instance de pouvoir qui inverse l'ordre normal des choses va passer communément au pouvoir exécutif parce que celui-ci a, pour parler comme Hamilton, l'énergie nécessaire, et aussi et surtout parce que son champ de compétences inclut, ce que nous appelons l'exécutif, le champ de compétences inclut les relations internationales, dans lesquelles, par définition, le pouvoir législatif est limité. Le pouvoir législatif interne est limité. Le texte classique dans lequel on voit tout ça merveilleusement déployé, c'est le second discours du gouvernement civil de Locke sur la prérogative, qui attribue d'ailleurs à la même instance royale les deux pouvoirs qu'il distingue, exécutif et fédératif, et qui écrit cette sentence dorée, « Il arrive que les lois mêmes s'effacent devant la loi fondamentale de la nature et du gouvernement, c'est-à-dire que tous les membres de la société doivent être sauvegardés autant que possible. » Alors, de ce point de vue, ce qu'on appelle communément la raison d'État renvoie à un trait fondamental, un trait permanent de la politique moderne, qui est, on y a fait allusion ce matin, l'asymétrie entre l'absence de asymétrie privative de la politique intérieure et de la politique extérieure, qu'on va retrouver dans toutes les théories modernes, y compris les plus libérales. Ça n'est pas quelque chose qu'on redécouvre, peut-être qu'on le redécouvre, mais si on le redécouvre, c'est qu'on le sait depuis longtemps, c'est quelque chose qu'on redécouvre dans des périodes comme celle de la guerre froide, c'est une donnée permanente. Il y a quelques années, dans la thèse de Battistella, par exemple, celui-ci montrait très bien que dans toute l'histoire des théories modernes, y compris libérales, il y a une singularité de la politique extérieure. Dans ce cadre-là, le progrès d'État, le progrès du droit, tend évidemment à limiter le champ de la raison d'État, mais inversement, la raison d'État n'a pu être civilisée ou apprivoisée par le droit qu'en étant partiellement reconnue. L'existence d'une sphère dans laquelle les lois s'appliquent d'une manière particulière est donc un fait universel dans les États modernes que ne détruit pas ce qu'on appelle, avec les trois sens sont d'ailleurs, les trois notions doivent d'ailleurs être distinguées, le progrès du rule of law, le progrès du principe de l'égalité ou même le principe de l'état de droit. Alors c'est ce qui explique par exemple la permanence dans les États modernes d'une sphère de secret. On a vu tout à l'heure le rapport du secret avec la raison d'État, qui sans doute continuera d'exister tant qu'il y aura des secrets d'État et tant qu'il y aura des services de renseignement. C'est ce qui fait, par exemple, qu'il y a dans la Constitution libérale et républicaine des États-Unis un « state secret privilege » dont la présidence Bush a fait un large usage, mais qu'elle n'a pas inventé. C'est aussi cela qui fait que le droit lui-même, et il faut insister sur ce point, reconnaît que, sans être pourtant illégaux, certains actes du pouvoir d'État ou de certains organes du pouvoir d'État ne sont pas soumises aux règles légales usuelles parce qu'elles relèvent de fonctions qui sont affranchies de ces règles légales. Ces actes, en général, relèvent de ce que Locke appelait les pouvoirs exécutifs et fédératifs, Et on les retrouve, par exemple, dans les deux nations démocratiques originelles, les deux nations issues des deux révolutions démocratiques, c'est les actes de gouvernement en France, ou le privilège de l'exécutif aux États-Unis. Alors néanmoins, et c'est mon troisième point, il y a des différences importantes dans le statut de la raison d'État, selon les différentes cultures nationales, selon essentiellement le fait que la raison d'État est ou non reconnue comme un mode légitime d'exercice du pouvoir. Il me reste combien de temps ?
5 minutes.
Bon, c'est bien ce que je disais, il faudra s'arrêter sans dire un mot de la fin. Alors, je passe rapidement sur la genèse médiévale de la raison d'État qui nous mènerait trop loin. Disons pour simplifier que pour qu'on puisse parler de raison d'État, il faut tout simplement, comme aurait dit le général de Gaulle après à propos du président Lebrun, qu'il y eut vraiment un État, c'est-à-dire un État au sens moderne, qui apparaît, comme on le sait, dans le contexte des guerres de religion, contexte dans lequel le pouvoir d'État est à la fois l'enjeu des luttes et le moyen d'y mettre fin. C'est dans ce contexte que la raison d'État va prendre la figure que nous lui connaissons. Alors c'est une évolution qui affecte tous les États, mais de manière distincte. Et je crois que de ce point de vue, on peut faire une distinction pertinente et appelée à de profondes implications ultérieures entre l'expérience anglaise et l'expérience française. Alors dans le cas français, on a une... Un corps politique a une importance particulière parce qu'il occupe une place singulière dans le système médiéval. Il est en conflit à la fois avec le pape et l'empereur. Il revendique l'impérium contre les deux. Mais il ne prétend pas à la souveraineté universelle, ce qui conduit chez Bodin à une théorie politique de la souveraineté dont la substance va se retrouver dans toute l'histoire du droit public français. Alors si on s'en tient à Bodin, la souveraineté chez Bodin est une puissance absolue qui se définit par le pouvoir de faire la loi, mais aussi par le pouvoir de la changer. Alors, le point important, je crois, c'est celui qu'a analysé très brillamment Arlette Joannat dans son livre sur le pouvoir absolu. C'est le fait que la notion de pouvoir absolu change d'étendue ou de signification dans la période qui nous intéresse. En soi, l'idée que le roi peut faire des exceptions à la loi en cas de nécessité n'est pas du tout nouvelle. On peut d'ailleurs la faire remonter, par exemple, aux politiques de Platon. Mais Bodin donne à cette idée une nouvelle signification. Schématiquement, on peut dire que le pouvoir suprême traditionnel pouvait devenir absolu dans certaines situations. Chez Bodin, le souverain est originairement absolu, et parce qu'il est originairement absolu, il a toujours le pouvoir de faire des lois qui fixent les droits et obligations, mais également de les changer, de les modifier, ou même de s'en écarter. De notre côté, le souverain de Bodin, ça n'est pas un maître. Il est absolu, mais il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le droit de vie et de mort des Césars romains. Il est à certains égards, bon, on peut suivre sur ce point, même si ce n'est que sur ce point, les analyses de Blandine Criégel, c'est aussi un théoricien des droits de l'homme. Alors qu'est-ce qui différencie, de ce point de vue, la formation française de la formation anglaise ? Je crois que ce qui la différencie, c'est le fait que l'équivalent en Angleterre de ce que les Français appelleraient raison d'État s'introduit à partir de la prérogative royale, mais que la prérogative royale n'est pas du tout la même chose que la souveraineté royale française, parce que la prérogative est un pouvoir de dérogation qui est inscrit à l'intérieur du King in Parliament, et qui n'a pas la même structure que le roi absolu français. En fait, si on suit, par exemple, mon collègue et ami de Denis Barranger, dans son excellent livre « Écrire la Constitution non écrite », on voit que la raison d'État n'a jamais été vraiment acceptée en Angleterre, ni aux États-Unis, qui, sur ce point comme sur d'autres, sont les héritiers de l'Angleterre. On trouve bien une théorie de la « state necessity », qui est défendue chez les Stuarts, mais elle est défendue par Francis Bacon, qui, sur ce point comme sur d'autres, a des idées françaises, qui défend l'idée d'un droit public situé au-dessus du droit privé, par exemple, mais dont toute l'histoire politique anglaise marque la défaite sous l'influence de Coke, et des faits qui n'ont jamais pu être surmontés, même sous la Restauration. Il y a bien, comme on l'a vu, la notion de prérogative royale qui fait signe vers l'idée d'une exception, etc., etc., mais qui s'inscrit dans le cadre du régime du King in Parliament et dans lequel la prérogative, la puissance royale, a quelque chose d'absolu, mais au sens médiéval, au sens dont Baudin s'est écarté, c'est-à-dire au sens dans lequel, dans certaines circonstances, on peut, mais ça n'est pas originairement absolu. Dans la Constitution anglaise, le rule of law, le règne de la loi ou le règne du droit, est compatible avec la souveraineté du Parlement, mais il suppose que les agents publics sont soumis à la même loi que les personnes privées. Dans la reprise américaine des schémas anglais, le privilège de l'exécutif est une réalité constitutionnelle qui s'impose aux législateurs, mais qui ultimement suppose que le juge constitutionnel peut en contrôler l'exercice. Alors, je voudrais insister pour conclure sur ce point. C'est la grande différence avec la France. En France, on a une chaîne continue qui va de l'État royal à l'État républicain, qui se traduit notamment par la fameuse dualité de juridiction administrative et judiciaire, que significativement le grand juriste anglais Dicey considérait comme un héritage absolutiste auquel l'Angleterre avait judicieusement échappé. Alors c'est de ce point de vue qu'on pourrait faire une comparaison qui serait, je crois, éclairante entre la doctrine française des actes de gouvernement et le concept américain de privilège de l'exécutif. Tous les deux sont des moyens de civiliser ce qu'on appelle communément la raison d'État, mais avec des rhétoriques très différentes. Le juge constitutionnel américain affirme son pouvoir de contrôle au moment où il reconnaît le privilège de l'exécutif. Le juge administratif français reconnaît son incompétence devant des actes dont la nature propre, qui est presque supraconstitutionnelle et qui n'est pas simplement constitutionnelle, n'est pas administrative, mais gouvernementale. Alors, si on me laisse deux minutes, qu'est-ce qu'on peut dire quelles sont les implications de tout ça ? Alors, on peut dire évidemment que dans la pratique, du point de vue moral ou pragmatique, il y a assez peu de différences et que les uns et les autres ne valent pas mieux du point de vue de la morale pure. Mais il y a néanmoins un rapport très différent au pouvoir d'État et aux formes qui sont censées établir le règne du droit, qui fait une grande différence entre les pays de culture de common law et un pays comme la France. Il y a des différences d'abord dans les conditions de l'usage de la force, dont on pourrait trouver déjà un exemple avant la cristallisation théorique dont j'ai parlé. Par exemple, dans l'anecdote qui rappelle les réactions d'Élisabeth Ier devant la Saint-Barthélemy, qui est le proto-modèle des actes de raison d'État, Élisabeth Ier, qui n'était pas particulièrement tendre, n'était pas choquée par la violence de la répression antiprotestante, mais elle estimait que Catherine de Médicis aurait dû, pour des raisons de bonne politique, faire juger les chefs protestants pour haute trahison. Il suffisait d'avoir des tribunaux ad hoc, ce que l'Angleterre d'Élisabeth avait très facilement, contrairement à ce qu'on raconte en France. Mais organiser un assassinat ou des assassinats pour la raison d'État, ce n'est pas raisonnable. On se souviendra aussi, dans le même sens, des remarques de Tocqueville sur le respect du droit qui a accompagné le long calvaire des États des Indiens d'Amérique du Sud, qui s'est fait, comme il le dit très bien, dans toutes les formes légales, sans jamais appeler à quoi que ce soit qui ressemblerait à de la raison d'État, de l'exception, etc., etc. Mais on remarquera aussi qu'en France, la culture de la raison d'État a accoutumé les citoyens à une complaisance envers leur État, envers leurs services et même envers leurs gouvernants, auxquels il est arrivé de se prévaloir de la raison d'État pour protéger des agissements dont le rapport avec le bien public est problématique. Et le bénéfice politique de tout cela est sans doute assez douteux. On n'a pas besoin de remonter très loin pour trouver des exemples. Le règne du grand François Mitterrand, par exemple, est assez riche en exemples de tout ça. Alors en conclusion, je dirais que le Royaume-Uni et les États-Unis usent des mêmes moyens que les autres États, mais ils ont toujours refusé l'idiome de la raison d'État, qui leur paraît incompatible avec la liberté, parce qu'ils placent les gouvernants au-dessus de la loi. La France, quant à elle, a eu sur cette question, comme sur d'autres, une position qui revient à rendre visible ce qui est ailleurs implicite, et c'est sur cela qu'il faudrait comparer les traditions françaises, anglaises et américaines. C'est ce que fait, dans un autre contexte, la Révolution française, C'est ce que lui reproche Burke par rapport à la Révolution américaine. Elle rend explicite le principe de la souveraineté du peuple que les Anglais et les Américains avaient dissimulé. Disons que pour nos amis anglais et américains, la France est l'héritière d'une culture monarchique qui combine la faiblesse du droit, le goût pour le secret et la complaisance envers des gouvernants immoraux. Pour nous, enfin pour beaucoup d'entre nous français, les anglo-saxons ne sont pas des paragons de vertu, mais peut-être des hypocrites, puisque finalement ils usent des mêmes moyens que nous sans l'avouer. Bon, j'aurais eu quelques mots à dire sur les discussions plus contemporaines, mais on y reviendra peut-être dans la discussion. Je crois que j'ai dépassé d'une minute trente.
Pardon. Merci beaucoup, Philippe. Donc, je passe tout de suite la parole à Elton Adverse, qui vient de l'Université fédérale de Minas Gerais, on dit bien ça, mais que les Centres Aron ont le plaisir cette année d'accueillir, et nous avec les Centres Aron. Son sujet porte sa communication sur Machiavel et Schmitt. On a déjà évoqué ce matin, il y a une heureuse continuité dans les programmes de colloque, dont je me réjouis, parce qu'on a déjà évoqué la question de Schmitt et Machiavel. Sans anticiper sur votre communication, on peut dire même parfois ce qui est significatif dans notre contexte, que des auteurs représentent bien la problématique Machiavel, moins par ceux qui disent de Machiavel, qui n'est peut-être pas si intéressant, mais par ceux qui représentent du problème Machiavel. En tout cas, il y a une autre heureuse continuité à ce sujet. D'ailleurs, la question, on l'a déjà évoquée encore une fois pour dire la persistance de la problématique machiavélienne. La question aujourd'hui est presque à la mode, et en tout cas significative du point de vue politique. Il faut bien dire, permettez-moi ce moment patriotique, que l'Italie anticipait de quelques décennies les débats autour des cas Schmitt, comme Tony Negri le sait bien, la problématique. C'est peut-être pas en vertu, mais c'est le cas. Et pour finir sur l'heureuse continuité, il y a eu une exception à ces retards français, qui était bien celui de Raymond Aron, parce qu'en 1972, avait fait publier dans sa collection les textes de Carl Schmitt. Mais pour continuer la discussion de ce matin, Aron, là aussi, il représente peut-être quelque chose du problème Machiavel, parce qu'il y a bien un problème Machiavel, comme il y a un problème Max Weber, peut-être. Aron a eu un rapport très ambivalent à Carl Schmitt. Il reconnaissait son problème, il ne lui accordait pas les conclusions. Et peut-être comme ça, on prolonge là aussi la querelle du machiavélisme. Et je sais d'ailleurs que plusieurs d'entre nous dans cette salle, j'en compte au moins cinq, ont abordé la question du rapport entre Aron et Carl Schmitt. Et pour employer la formule de Philippe Reynaud, il y a peut-être, Aron montre peut-être un bon usage de Carl Schmitt, peut-être aussi un bon usage de Machiavel, en tout cas pour prolonger ces cercles herméneutiques autour de Machiavel. Je passe la parole avec plaisir à Elton Adverse.
Merci beaucoup pour l'invitation. Et bon, alors je passe tout de suite à mon texte. En fait, j'avais préparé un texte un petit peu long, mais je vais le découper. Je commence la lecture. Après les nombreux points de contact entre les pensées de Machiavel et de Schmitt, les rapports sont marqués. Comme l'a remarqué Carlo Galli dans un article qui s'appelle Schmitt et Machiavel, qu'il a publié d'abord comme article et plus tard comme chapitre de livre dans son œuvre Les Guardes de Giano, si je ne me trompe. Et alors, Galli, utilise cette expression que j'adopte, c'est extériorité, il y a une extériorité entre la pensée de Schmitt et de Machiavel. Et ce que je voudrais mettre en relief, c'est justement les raisons de cette extériorité à partir de la lecture schmittienne de Machiavel. Et pour mener bien cette tâche, il me paraît essentiel de reprendre dans la vaste production bibliographique de Schmitt des œuvres parues dans les années 1920 où les Florentins jouent un rôle relativement important, mais sans jamais y être les protagonistes. Ce sont des moments de l'œuvre de Schmitt que je voudrais analyser. Le premier moment, c'est le livre sur la dictature, publié en 1921. Dans les premiers chapitres, Schmitt commente Machiavel et surtout les discours. Mais je ne vais pas lire cette partie de mon texte parce que ce serait trop long et je ne vais pas m'étarder. Mais ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que Schmitt fait l'éloge de Machiavel en 1921, le livre sur la dictature, Parce que Machiavel, selon Schmitt, a un discernement, une compréhension raffinée du dispositif de la dictature, du dispositif constitutionnel roman de la dictature. Et il faut remarquer que ça intéresse à Schmitt en 1921, justement à propos de la discussion sur le fameux article 48 de la Constitution de Weimar. Alors, cette définition que Machiavel présente de la dictature dans les discours, dans les chapitres 30, 34 du premier livre de discours, intéresse à Schmitt justement pour présenter les dispositifs de la dictature des commissaires. Mais, en même temps, Schmitt dit, en 1921, que Machiavel a une conception de politique qui est essentiellement technique. Et voilà les points où Schmitt va mettre tout l'appui, le fondement de sa distance, de sa critique à Machiavel, parce que cette conception technique de la politique, selon Schmitt, est à l'origine d'une modernité qui neutralise, qui dépolitise, qui neutralise les politiques et produit conséquemment une dépolitisation. Alors, l'éloge, d'abord en 1921, mais l'éloge qui est suivi d'une critique très dure, parce que Machiavel, c'est un technicien, sa conception de la politique est fondamentalement une conception technique. Et cette critique est accentuée dans le texte de Schmitt de 1923, qui c'est le texte sur le catholicisme et la forme politique, et le catholicisme roman et la forme politique. Et là, Machiavel encore est cité comme le penseur de la technique qui est à l'origine de la pensée politique incapable de forme, pour utiliser l'expression de Schmitt en 1923. La pensée technique, c'est une pensée politique incapable de forme, incapable de représentation. Enfin. Alors, c'est une lecture peu favorable à Machiavel. Au début des années 20. Mais en 1927, Schmitt fait un autre jugement de Machiavel. En effet, dans le chapitre 7 de la notion de politique, les Florentins font partie du groupe des auteurs qui soutiennent une vision pessimiste de la nature humaine. Et l'affirmation de cette vision est cruciale pour Schmitt parce que les théories politiques dont le fondement anthropologique est le postulat de la corruption de la nature humaine, sont justement celles capables de mobiliser la distinction essentielle de la politique, à savoir la séparation entre amis et ennemis, et de cette manière, elles sont capables de saisir la concrétude de la politique. Il convient de noter que Schmitt comprend ce fondement anthropologique un terme strictement politique, hors de toute référence à la sphère morale. Il ne s'agit pas d'une définition qui pourrait être appliquée sur toutes les dimensions de l'existence humaine, mais d'une utilisation polémique des catégories anthropologiques dans les domaines politiques. De cette manière, la présupposition de la bonté naturelle, selon Schmitt, est au service des théories anarchistes et libérales dans la mesure où elle donne appui à la résistance à l'État. En effet, l'homme bon n'a pas besoin de l'intervention de l'État afin d'organiser la vie collective. Et cela signifie que l'État doit être instrumentalisé par la société qui, elle, porte en soi les principes de sa propre ordination. À Schmitt, alors, de synthétiser la stratégie libérale et anarchiste dans la formule suivante. Je cite Schmitt. « Le radicalisme ennemi de l'État augmente dans la même mesure que la foi en la bonté radicale de la nature humaine. » Fin de citation. Les plus graves défauts épistémologiques de cette fondation anthropologique est l'incapacité d'articuler une authentique théorie de l'État. Le libéralisme, dit Schmitt, ne peut pas élaborer une théorie positive de l'État. Il ne fait que lui imposer des obligations morales d'un côté et de l'autre subordonner la politique à l'économie. Et on aurait tort de considérer le célèbre système d'équilibre une nouvelle théorie politique ou un principe politique constructif. Au contraire, d'accord, Schmitt, selon Schmitt, il est un principe de dépolitisation dont la finalité est affaiblir la puissance de l'État. Dans ce contexte, Schmitt peut affirmer que toutes les théories politiques genuines présupposent l'homme corrompu, c'est-à-dire un être problématique, dangereux et dynamique. Affirmation totalement cohérente avec le développement argumentatif du livre, parce que, dès les premiers chapitres, Schmitt essaie de nous convaincre que l'essence du politique se manifeste dans l'antagonisme ou dans les caractères problématiques des rapports humains. La distinction ami-ennemi est activée à partir du moment où l'antagonisme entre groupements, quel que soit le domaine, moral, religieux, atteint les degrés d'intensité du politique, ce qui mène Schmitt à conjuguer les politiques avec la conflictualité et à soutenir la thèse antilibérale selon laquelle il existe de la politique parce qu'il existe les conflits et pas les contraires. Si on accepte les prémices de Schmitt, on doit conclure qu'un vrai penseur politique, au fur et à mesure que sa pensée se révèle spécifiquement politique, est obligé d'admettre le caractère problématique de la nature humaine. Et voilà la liste des penseurs politiques conséquents, dont des vrais penseurs politiques, dont Machiavel est le chef de file. La liste poursuit. Alors, après Machiavel, il y a Hobbes, Bossuet, Fichte, Demetre, Donoso Cortés et même Hegel. On peut voir que la position de Machiavel dans le parcours théorique de Schmitt a subi une significative transformation. Des penseurs de la technique, en 1921, le Florentin, en 1927, est élevé au niveau supérieur de ceux qui sont capables d'apprendre l'essence authentique de la politique à partir de l'opposition fondamentale entre amis et ennemis. L'anthropologie négative, librement manifeste dans de nombreux passages de ces textes, lui garantit les conditions de formuler une pensée politique en retirant tous les bénéfices théoriques de sa conflictualité inhérente aux êtres humains, dont le plus grand est sûrement d'une conception du pouvoir politique dans une perspective décisionniste. Alors, comment comprendre ces changements du point de vue de Schmitt dans sa lecture de Machiavel? Pourrait-on dire que Schmitt a fini, après quelques années de réflexion, pour trouver une forte affinité théorique avec Machiavel? Rien de plus douteux. D'abord, il faut remarquer que Schmitt, comme en 1921, fait une lecture conventionnelle de Machiavel, il l'utilise selon ses propres intérêts. Mais si la fidélité exégétique n'est pas un trait distinctif du rapport de Schmitt avec la tradition philosophique, la nouvelle appréciation de la pensée de Florentin signale un important changement dans sa propre compréhension du politique, la compréhension de Schmitt. En d'autres mots, il y a une raison théorique profonde qui explique le nouveau regard de Schmitt en 1927. C'est l'identification du critère ami-ennemi comme la distinction fondamentalement politique. Cette identification implique une nouvelle formulation du problème de l'anthropologie pessimiste. En 1921, l'anthropologie négative assurait soit la fondation morale ou juridique de l'autorité, soit la justification de la mise en place d'une technique indifférente aux fins à atteindre. 6 ans plus tard, c'est le propre fondement du politique qui dépend de la dangerosité de l'homme. En fait, Schmitt l'annonçait déjà dans un compte-rendu du livre de Meinek, L'idée des raisons d'État, publié en 1926, par le livre, le compte-rendu. Sans faire une référence directe à Machiavel, Schmitt, dans ses compte-rendus, il disait que celui qui constate qu'existe une situation anormale, soit qu'il regarde le monde dans une radicale anormalité, soit qu'il considère anormale une situation particulière, résoudra les problèmes de la politique, de la morale et du droit d'une façon diverse de celui qui est convaincu de sa radicale normalité, à peine éclipsée par des petites perturbations. Si l'homme est considéré bon ou mauvais par nature, je cite Schmitt encore, si l'homme est considéré bon ou mauvais par nature, dans la littérature théorique sur l'État, cela n'est qu'une description ou une application particulière de cette contraposition fondamentale. Fin de citation. Or, à partir du moment où le présupposé anthropologique acquiert cette dimension dans la démarche schmittienne, il n'est plus possible de reléguer au second plan un auteur comme Machiavel. Cela dit, il faut observer que dans les débats à propos du caractère problématique de l'homme, l'intérêt de Schmitt pour Machiavel est surtout d'ordre méthodologique. Grâce à Durkheim, Schmitt n'ignore pas la possibilité d'équilibrer les sombres déclarations machiavéliennes à propos de la nature humaine avec une vision plus optimiste. Du point de vue de Schmitt, le plus important chez Machiavel, c'est la conscience de la nécessité d'adopter la dangerosité comme un présupposé, c'est-à-dire la refuse du Florentin à prendre les caractères problématiques d'une façon dogmatique. Plusieurs fois, Schmitt utilise le verbe présupposer, voraussetzen, à l'instar de Machiavel, qui, dans le troisième chapitre du premier livre des discours, affirme que le législateur doit présupposer, presupporre, la méchanceté des hommes. Évidemment, hors de question, suggérer une origine machiavélienne pour les présupposés schmittiens. Peut-être Weying, c'est soit l'auteur plus important pour Schmitt là-dessus. Mais si on néglige ces parallèles, on ne sera pas capable de comprendre les causes de la nouvelle réception de Machiavel chez Schmitt. L'un et l'autre accordent un lien privilégié à l'anthropologie pessimiste comme l'unique stratégie capable, d'une part, d'assurer une appréhension de politique dépourvue de tout élément moralisant, et, d'autre part, de mettre en relief sa nature conflictuelle, voire polémique. Et pourtant, on peut trouver un point commun, un point de contact entre Schmitt et Machiavel dans cette utilisation méthodologique de l'anthropologie négative. Et j'ai l'impression que Schmitt le reconnaît. Et pourtant, les Florentins ne parlent jamais de sa propre voix dans le texte de Schmitt. Schmitt ne cite Machiavel nulle part dans la notion de politique. Il le cite dans le livre sur la dictature. Cela signifie que Machiavel, malgré les points de contact, Machiavel est réhabilité chez Schmitt sous la condition de son insertion dans la logique de la pensée schmittienne. Sans que Schmitt, comme l'a bien remarqué Carlo Galli dans l'article déjà cité, sans que Schmitt mette en place un vrai dialogue ou reconnaisse l'existence d'une dette. C'est l'extériorité. Je vais conclure, je passe à la partie finale de mon texte. Cette extériorité entre les auteurs découle d'abord d'une prise de position de Schmitt qui n'hésite jamais à conditionner sa lecture de Machiavel au contexte polémique où il écrit. Cependant, il y a des divergences plus profondes qu'il importe d'élucider. Selon Galli, les deux penseurs mettent à découvert l'absence d'un fondement ultime pour la politique moderne. Mais face à cette question, l'un et l'autre adoptent des stratégies tout à fait différentes. Pour Machiavel, la perte de la transcendance implique la récupération du politique comme l'espace pour la manifestation de la vertu, unique possibilité de construction d'un nouvel ordre politique qui puisse durer. Pour Schmitt, par contre, la modernité inaugure l'époque de la théologie politique où la transcendance est récupérée par l'exigence de la forme, par moyen de la représentation. Sans vouloir mettre en question cette lecture de Gall, de Carlo Galli, je proposerai d'examiner plus en détail les problèmes du conflit et du pessimisme anthropologique afin de mieux apprendre les divergences entre les auteurs. En ce qui concerne le problème du conflit, il est indubitablement central chez Schmitt et Machiavel. Mais les conflits jouent un rôle complètement distant chez l'un et l'autre, et cette différence devient plus évidente quand on reprend le thème de la méchanceté humaine. Chez Schmitt, le présupposé de la méchanceté est indispensable à l'explicitation de la conflictualité. Cela signifie que la conflictualité trouve ses racines dans un domaine conceptuellement non politique, ou même pré-politique, mais dont l'existence rend nécessaire les politiques, entendues comme l'espace où les rapports de pouvoir vont se constituer. C'est très clair la proximité entre Schmitt et Hobbes. Et la rappeler est d'autant plus important parce qu'elle nous permet de mesurer la distance qui sépare Schmitt de Machiavel. Quand Hobbes présuppose l'existence d'un état de nature conflictuelle, il assigne au pouvoir politique la fonction de dissoudre l'antagonisme et d'instituer la paix. Chez Schmitt, la tâche de l'État est d'assurer l'ordre juridique et la conservation du mode d'existence de ses membres à partir de la décision qui distingue amis et ennemis. En dépit des nombreuses différences entre Hobbes et Schmitt, tous les deux comprennent que les conflits déclenchent les politiques et rendent nécessaire l'imposition de l'ordre. Dans les termes de Schmitt, quand l'antagonisme atteint le degré d'intensité du politique, la raison d'être de l'autorité politique se manifeste, assurer l'ordre et conserver l'unité à partir de la dissension entre amis et ennemis. C'est la même logique qui commande la conception schmittienne de souveraineté et d'état d'exception. Or, elle est totalement étrange à Machiavel. En effet, pour les Florentins, le conflit est indissociable de la dynamique politique. Autrement dit, le conflit est originaire, comme on peut voir dans les célèbres passages de ses œuvres où Machiavel, entre guillemets, décrit l'antagonisme entre les humeurs qui divise toutes les cités. Mais il faut bien comprendre les caractères originaires des conflits. Il n'a rien à voir avec des conceptions anthropologiques. Les humeurs ne sont pas des qualités humaines, mais des qualités politiques associées aux partis de la cité et à leurs désirs, ne pouvant être déduites des conceptions naturalistes ou cosmologiques. Par conséquent, les présupposés de la méchanceté humaine chez Machiavel consistent en une règle de prudence pour les législateurs et pour l'homme politique. Il est d'abord, les présupposés, une directrice pour l'action politique, particulièrement au moment de la fondation ou de la réforme du corps politique. Sous la forme du calcul, il diminue, les présupposés, il diminue, sans l'éliminer, les risques de l'échec de l'action, et en même temps, il est la confirmation de l'indétermination et de la contingence de l'action politique. C'est justement l'impossibilité d'apprendre la réalité politique en sa totalité qui rend indispensable l'adoption d'une conception négative, chez Machiavel, négative de la nature humaine. Chez Schmitt, on voit le contraire. Le pessimisme, même d'une façon non dogmatique, est au fondement de sa théorie politique. Chez Machiavel, il ne joue pas ses rôles et la conflictualité, tout en restant à l'abri des considérations anthropologiques, peut opérer d'une manière fort différente et donne accès à une vision de politique bien distante de celle de Schmitt, à savoir une conception qui met au centre de la vie politique la question de la liberté. J'ai encore du temps, une minute. Plus encore, les conflits chez Machiavel conditionnent la liberté, laquelle acquiert sa concrétude sous la forme du régime républicain. Par contre, chez Schmitt, les conflits trouvent sa source dans la dangerosité humaine et comme telle, exige sa résolution par voie de l'unité, même qu'elle soit précaire. Il ne faut jamais négliger les différences qui séparent Schmitt et Machiavel. Nonobstant, il est intéressant de souligner une divergence théorique irréductible en ce qui concerne à leur compréhension du politique. Quand Schmitt associe l'antagonisme à l'inclination humaine à faire le mal, il révèle une conception essentiellement tragique du politique, puisqu'il évoque la question du destin de l'être humain, de la mortalité, et on peut y déceler l'ambivalence du conflit chez Schmitt. Il y a l'ouverture au politique et aussi sa clôture. La rupture de l'unité exige sa recomposition. Quant à Machiavel, le conflit est plutôt structurant. La division est assumée comme une donnée incontournable et sa résolution coïncidait avec la fin de la vie politique libre. Merci.
Merci beaucoup pour votre texte qui montre très bien, je pense, on en discutera, mais à quel point quand on veut discuter les présupposés théoriques, parfois les proximités deviennent trompeuses. Je passe pour conclure, pour ainsi dire, notre cercle herméneutique. La parole à Jean-Claude Monod, que vous connaissez sans aucun doute. Du moins deux de ses livres nous concernent, sans porter directement sur Machiavel. Celui sur la sécularisation, s'il est vrai que Machiavel enclenche cette modernité que certains peuvent associer à la sécularisation. Mais surtout, je dirais, ce livre « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?», un de vos derniers livres, sinon les derniers, si je ne me trompe pas, peut-être encore. Parce que si le sous-titre est weberien, « Politique de charisme », évidemment, l'articulation entre les chefs, la démocratie ou les princes et la République est éminemment un sujet machiavélien. Donc, je vous passe la parole avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci donc pour cette invitation. Et comme donc vous l'avez pas vraiment rappelé, mais je ne suis pas un spécialiste de Machiavel ni de sa réception. Je crois que je suis plutôt là au titre d'une tentative d'actualisation ou de reprise ou de mise à l'épreuve de certains thèmes de la pensée de Machiavel à l'actualité. Effectivement, ce livre, Qu'est-ce qu'un chef en démocratie, avait été qualifié une fois de machiavélien, un peu à ma surprise, parce que ce n'est pas une référence pour moi qui était importante, mais c'est une heureuse surprise. Mais alors, aujourd'hui, en fait, j'entreprendrai cette confrontation à travers un certain détour, le détour d'interprétation, qui me semble à la fois intéressante et partielle, ou partiale de cette pensée, une pensée qui, il est vrai, est notoirement marquée par un caractère, disons, biface, hein, on y a fait allusion. C'est la question qui taraude le commentaire machiavélien, comment se combine ou s'articule le prince et les discours sur la première décade de Tite-Live, comment s'articule la considération nue du pouvoir en vue de sa conservation, et d'autre part, le souci manifeste des intérêts du peuple dans la trame continue d'un affrontement entre le peuple et les grands. Faut-il considérer que Machiavel a joué deux partitions différentes et qu'il ne faut pas chercher chez le secrétaire florentin un système de philosophie politique, ou bien faut-il y voir les éléments d'une unique expérience, comme le dit Tony Negri dans son texte Machiavel selon Althusser. Alors je n'entre pas tout de suite dans l'examen de ce problème, et j'aimerais donc, comme je l'ai dit, discuter deux lectures assez récentes de Machiavel par deux auteurs très différents, mais relevant de ce qu'on peut, de façon très générale, appeler la pensée critique contemporaine. L'un, c'est Axel Honneth, et l'autre nous fait le plaisir d'être présent à cette journée et parlera tout à l'heure, donc... C'est un peu bizarre toujours de parler devant la personne. C'est donc Antonio Negri. Mais je m'attacherai simplement à un motif que l'un et l'autre dégagent respectivement et à la façon dont ils situent ainsi Machiavel dans la pensée politique et peut-être pour l'actualité. Je commence par Axel Honneth, qui est absent. Donc, dans la lutte pour la reconnaissance, Axel Honneth crédite Machiavel et Hobbes d'avoir dévoilé la nature essentiellement conflictuelle de la vie sociale et politique. Dès lors qu'il y a société, il y a lutte, sous une forme plus ou moins latente et patente parfois, avec des degrés divers, des intensités variées. Et cette lutte installe les individus, les groupes, les consciences dans une instabilité essentielle où la domination, le pouvoir exercé par certains se double toujours d'une incessante contestation ou d'un tumulte. Le prince est largement une réflexion sur la façon la plus intelligente de contenir ou de réprimer ce tumulte, où les discours, c'est la première des quatre de Tite-Live, voient plutôt dans ce tumulte ou cette agitation une condition d'existence et de vitalité d'une cité républicaine. Au chapitre 1 de la lutte pour la reconnaissance, intitulé « La lutte pour l'existence, la naissance de la philosophie sociale moderne », Honneth resitue ainsi Machiavel dans un moment de transformation des structures sociales qui sapent les fondements de la doctrine classique, représentée donc comme un mix d'aristotélisme et d'éthique chrétienne destiné à déterminer l'ordre éthico-politique du comportement vertueux, tout cela ordonné à la paix civile et au bien-vivre commun. Le développement tous azimuts, alors bon, il y a une évocation assez rapide du contexte historique, un peu avec un développement tous azimuts du commerce, de l'industrie, de l'imprimerie à la Renaissance, et finalement l'affranchissement des principautés, des villes marchandes, qui aurait produit donc une sorte de débordement de ce cadre idéologique et normatif et de la compréhension classique du comportement vertueux. Au fond, quand le marchand est au cœur de la cité, la vertu change un peu de sens. Et ces changements se montraient en toute clarté dans une collectivité urbaine libre et agitée comme la République florentine. Il n'est pas étonnant, estime Honneth, qui suit ici un ouvrage sur Machiavel de Hertfried Münkler, que ce soit précisément l'ambassadeur disgracié de la République de Florence qui est, je cite Honneth, rompu radicalement et sans cérémonie avec toutes les prémices anthropologiques de la tradition philosophique en présentant l'homme comme un être égocentrique uniquement présupposé de son propre intérêt. Fin de citation. Machiavel fonde ainsi ses réflexions sur, je cite, une ontologie qui suppose un état permanent de rivalité et d'hostilité entre les sujets, traversé donc par des relations de méfiance, de crainte mutuelle et motivé par l'orgueil. À certains égards, par son ontologie sociale non téléologique et centrée sur le conflit, Machiavel annonce pour Honneth, Hegel et Marx, mais selon Honneth, il reste néanmoins en deçà d'une compréhension authentique des luttes sociales, en tant que les enjeux des luttes sociales ne seraient jamais purement matériels ou égoïstes, mais toujours en même temps moraux. Autrement dit, Machiavel a vu que la lutte était au principe de la vie sociale, mais il n'a pas saisi, selon Honneth, la lutte comme lutte pour la reconnaissance. Il est resté aveugle à la portée morale de ces luttes et n'a pas accédé au concept de reconnaissance. Avec cette conséquence politique funeste, la question suprême chez Machiavel resterait toujours la lutte pour l'existence et pour la puissance, pour l'accroissement de la puissance, et il s'agirait toujours pour lui de savoir comment ce conflit incessant entre les hommes peut être exploité au profit du pouvoir en place. Les analyses, bon j'étais très vite, que Tony Negri a consacrées à Machiavel dans Le pouvoir constituant sont infiniment plus détaillées et développées que ces remarques de Honneth qui servent plutôt un peu de vestibule hein, au concept de lutte pour la reconnaissance. Il s'agit chez Antonio Negri dans Le pouvoir constituant d'une véritable interprétation d'ensemble de la pensée de Machiavel qui discute les lectures italiennes et américaines. Et Tony Negri propose en particulier une interprétation propre de l'articulation entre le prince et les discours. Contrairement à nombre de lecteurs, disons progressistes ou libéraux, Negri ne veut pas laisser de côté le prince en le considérant comme un brillant écrit de circonstances dont l'apport théorique aurait consisté seulement en quelque sorte à isoler le politique, à dégager le politique du moral et à poser l'autonomie du politique, bon, ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est peut-être pas l'essentiel. Tony Negri reformule plutôt cette vision en estimant que la véritable, je cite, innovation ontologique de ce qui est bien une sorte de journal de bord multiple et inachevé, régi par une logique souvent occasionnelle, hein, c'est une autre citation, la véritable innovation se trouve dans l'invention du principe constituant, c'est-à-dire aussi bien dans l'attribution aux politiques d'une forme d'absoluité, mais, contre certaines lectures de Machiavel, d'une absoluité qui ne devient jamais totalitaire. C'est une citation du principe constituant, une absoluité qui ne devient jamais totalitaire ou totalitaire avant la lettre. La quête du principe constituant est indissociable dans le prince de celle d'un prince nouveau, bien sûr, Médicis, ou qui serait capable d'opérer une rénovation. Mais c'est dans les discours sur la première décade que ce dispositif se trouvera mis au service de la République, seule forme politique, dit Machiavel, ordonnée véritablement au bien commun. C'est dans les discours de 2. Dans les chapitres justement célèbres, notamment dans le chapitre 58 du livre 1, « La multitude est plus sage et plus constante qu'un prince », Machiavel, comme on sait, montre contre Tite-Live, cette fois, et contre toute la tradition historiographique, et peut-être contre toute la philosophie politique, il faut bien dire, à ce moment-là, il y a quelque chose de vraiment d'une innovation. Non seulement...
Sauf Spinoza.
Sauf Spinoza, ok. Oui, mais Spinoza se réfère à Machiavel lui-même, donc... Bon. La philosophie politique jusqu'à Machiavel, non seulement donc défend le peuple, la multitude, mais affirme la supériorité du peuple sur les princes en détruisant les arguments classiques du dénigrement du peuple comme inconstant, instable, etc. Et en montrant, bon, je passe vite, mais qu'au fond, si on compare le peuple et le prince et leurs conditions, le peuple aux mêmes conditions, en sorte, est toujours meilleur que le prince aux mêmes conditions. Il faut comparer aux mêmes conditions, c'est-à-dire notamment sous la loi ou pas. C'est la question de la loi qui est ici très importante. On trouve à plusieurs reprises. Et donc, alors, est-ce que ça veut dire la supériorité d'un gouvernement du peuple par lui-même, du gouvernement du peuple par le peuple, au gouvernement, plutôt que le gouvernement du peuple par le prince? Alors, c'est une question. Et on trouve à plusieurs reprises cette formule dans les discours, formule qui est frappante, « quand les peuples sont princes ». Dans la traduction Gallimard, c'est rendu par « quand ils sont chefs », mais l'italien dit bien « quando sono principi ». On trouve par exemple page 241 et 43 de la traduction Guillemard. Donc les peuples peuvent être princes, et non seulement ils peuvent être les princes, mais quand ils le sont et qu'ils règlent leur comportement par des lois, ils sont meilleurs princes que les princes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, Tony Negri fait l'éloge chez Machiavel de la perception de la puissance subjective de la multitude, puissance qui s'exerce sur un mode aléatoire, sans se plier, dit Antonio Negri, à une constitution préalable ni à une finalité posée d'avance comme norme du bon comportement collectif. Exemple donc d'une politique étrangère à l'institution, la puissance de la multitude machiavélienne est aussi une politique sans chef. Dans un entretien paru en 2003 dans la revue Multitude, Machiavel ou les prospérités de la lutte, Antonio Negri souligne que chez Machiavel, si le politique est toujours exposé à la corruption, il l'est aussi à une production positive du pouvoir, à l'émergence du commun. Et ce côté de double possibilité, de double exposition, se reflète dans l'appréciation qu'Antonio Negri donne de la dualisation même de l'héritage de Machiavel, qui a été lui-même scindé en deux, d'un côté un machiavélisme de la raison d'État et du cynisme des dominants, disons, où Tony Negri voit, en un sens, le pire du politique, et de l'autre, un Machiavel contre le machiavélisme, qui réactive la puissance de la multitude contre la clôture de la politique en un dispositif de domination bouclé, notamment par la souveraineté des États-nations modernes. C'est bien sûr de ce côté-là que Tony Negri situe Spinoza et Marx, et qu'il entend sans doute lui-même se situer. Mais cette ligne de partage, c'est important de le dire, ne recoupe pas d'un côté le prince comme expression du machiavélisme, et de l'autre les discours. En tant qu'il s'agit aussi de penser la production du pouvoir, Antonio Negri suggère, si j'ai bien compris, qu'il serait erroné de renvoyer le prince, il principe, simplement du côté du machiavélisme gouvernemental, et estimant d'ailleurs que les plus grandes interprétations de Machiavel sont celles qui tiennent ensemble le prince et les discours, Antonio Negri suggère que le prince peut également être lu, peut-être contre son discours explicite, comme une réflexion stratégique par où le peuple peut aussi entrer dans l'envers du décor, éviter la naïveté, penser sur un mode désutopique, penser les conditions d'une hégémonie au sens de Gramsci. Tony Negri parle de la conquête du réalisme politique et cette conquête peut être mise au service du peuple et même du peuple en armes qui peut devenir à son tour le prince. Alors après cette très brève et partielle présentation de ces deux motifs, j'aimerais les discuter rapidement, je vais me rester... 7 minutes, voilà. Donc j'irai très vite sur la lecture de Honnête. Il est facile d'objecter à Honnête en s'appuyant aussi bien sur les discours de la première décade que sur les histoires florentines que Machiavel ne méconnaît pas du tout le fait que les conflits sociaux qui impliquent le peuple et le petit peuple, les ciompi, qui sont les ouvriers de la laine les moins bien traités, n'implique pas seulement des motifs matériels, mais aussi des motifs d'honneur, des motifs de susceptibilité, des motifs de non-reconnaissance du travail. On le voit sur les cas des Ciompi, ils estiment que leur travail n'est pas reconnu, à sa propre valeur, et que c'est un des motifs de leur soulèvement. C'est un des motifs également, un des motifs des soulèvements qu'évoque aussi aussi Machiavel dans ses réflexions sur Rome et sur Florence, c'est l'impudence, le mépris, l'arrogance des grands. C'est en fond la Missachtung dont parle Honneth, c'est-à-dire le mépris, la faute d'attention, le mépris qui est un des grands motifs de production du conflit social et qui a, alors ça serait, me semble-t-il, une grande actualité aussi pour penser précisément ce qu'est un conflit aujourd'hui, ce qu'est un conflit politique, ce qu'ont été des récents soulèvements contre des gouvernants qu'on veut dégager pour leur impéritie, mais aussi pour leur mépris. Alors, je reviens à la lecture de Tony Negri, qui, comme je l'ai dit, est beaucoup plus articulée, qui présente, me semble-t-il, quelques difficultés à son tour, ne serait-ce que lorsque Tony Negri suggère qu'on peut reprendre positivement le contenu du prince en mettant à la place du sujet princier, si je puis dire, le peuple insurgé ou le peuple en armes, est-ce qu'on ne transférera pas alors le machiavélisme au sens négatif, au sens qui est décrit comme négatif et même comme détestable, celui qui autorise la cruauté, la répression brutale, l'extermination des adversaires, même des armées, etc., vers le sujet collectif révolutionnaire, le peuple en armes? Tout à coup, le machiavélisme se trouve lavé de tout péché. Mais la question qui m'intéressera ici est plutôt de savoir si ce devenir prince du peuple implique, dans sa forme démocratique, républicaine, l'avènement d'un pouvoir du collectif sur lui-même, sans médiation, sans chef particulier. Dans le dernier chapitre du pouvoir constituant, Tony Negri évoque la figure du prince comme, je cite, « exigence d'un peuple pulvérisé et dispersé », ce qui est une sous-citation de Gramsci, « qui désire, dans sa dispersion, s'organiser et être provoqué à l'action collective ». Le peuple comme exigence d'un peuple, le prince comme exigence d'un peuple à être provoqué à l'action collective. Enfin, c'est dans la quête du prince, qui est également une quête patriotique pour Machiavel, mais je laisse ça de côté, semble bien alors pouvoir en appeler à des chefs particuliers, à la virtu d'un seul homme, comme il est dit au chapitre 4 des histoires florentines. Quant à Florence, le gouvernement mixte échoue à s'instituer. Quand ni la plèbe ni la noblesse ne parviennent à s'imposer, c'est la virtu d'un seul homme qui apporte une solution à l'impasse. Mais alors, tout reste en un sens suspendu, me semble-t-il, et tout reste à penser. Et d'abord, le rapport entre trois éléments. La virtu, qui peut être la virtu individuelle d'un seul homme, d'un chef ou d'un prince, qui peut être une figure de fondation, de libération, de préservation, de durée, ou de rénovatio, de rénovation. Donc, premier élément, la virtu d'un seul homme. Deuxième élément, la multitude. Le peuple agissant est capable de vérité, comme dit Machiavel en une formule très, très marquante. Le peuple est capable de vérité. Et troisième point, les lois. Troisième élément, non négligeable. Cet équilibre, me semble-t-il, ne correspond pas à la démocratie comme forme absolue dont parle Tony Negri, ni à la multitude nécessairement sans chef. Ça conduirait plutôt à explorer, enfin m'avait conduit en tout cas, la possibilité d'un charisme démocratique qui peut être un charisme de résistance, un charisme de fondation, voire peut-être un charisme d'égalité. Dans les dernières pages du pouvoir constituant, Gramsci est cité, un texte de Gramsci, où le prince est pensé positivement comme un mythe. Le prince est un mythe qui, disait Gramsci, ne peut être une personne réelle, un individu concret. Il s'agirait plutôt de créer ex novo une volonté collective. Donc, c'est cité par Antonio Negri, page 420 de la traduction. Antonio Negri donc, s'enthousiasme pour cette perspective d'un prince qui ne serait pas une personne réelle, mais un collectif créé ex novo. Et je le suivrai volontiers sur ce point. Les peuples peuvent être leur propre prince, mais cela n'exclut nullement, pour Machiavel, la médiation personnelle de chefs politiques et parfois d'un homme seul. Évoquant le ressourcement des républiques dans leur commencement, selon un motif d'ailleurs qui a fasciné Hannah Arendt, Machiavel note au livre 3, chapitre 1 des discours, « Le retrait des républiques vers leur commencement naît aussi des simples vertus d'un homme. Le retrait des républiques vers leur commencement naît aussi des simples vertus d'un homme. Les effets de la vertu individuelle sont ici comparés à ceux des bonnes lois et des institutions. » Et c'est encore une chose, me semble-t-il, qui tente à disparaître dans la lecture que propose Antonio Negri, qui oppose in fine la démocratie au constitutionnalisme. Il me semble que Machiavel, de son côté, insiste dans les discours-ci toujours sur le fait que le peuple est bon et meilleur que les princes, éventuellement quand il est régi par des lois, ne domine pas, je cite, avec arrogance, tient son rôle avec honneur, avec ses institutions et ses magistrats. 1.58, page 237 de la traduction Gallimard. Donc, il n'y a pas d'absolu de la démocratie ici. Il y a un peuple qui, oui, est meilleur quand il est régi par des lois, quand il traite avec honneur les magistrats, quand il ne cède pas lui-même à l'arrogance de la domination. Loin d'opposer la République ou la démocratie au constitutionnalisme, nous semble-t-il, Machiavel fait dépendre ici la qualité de la domination du peuple de son respect de l'autorité d'un Parlement ou d'un Sénat et des lois en général. Les temps où gouvernent de bons chefs, écrit Machiavel au chapitre 10 du livre 1, sont aussi les temps où l'autorité de telles institutions est respectée, du Sénat par exemple, les magistrats sont honorés, toute rancune est tue, la paix et la justice règnent, chacun peut avoir et exprimer son avis, etc. Ce n'est pas ici le peuple en armes, ni la multitude communiant dans l'amour, c'est le vivre libre, réaliste du peuple machiavélien. Je reviens, si j'ai encore une minute. Voilà, bon. Alors je saute un petit passage. Pour conclure, donc, en revenant à l'actualité, je crois que nous voyons aujourd'hui, alors je prends des points où la politique a une certaine effervescence actuelle, nous voyons aujourd'hui en Grèce ou en Espagne la conjonction positive peut-être de deux tendances. D'un côté, effectivement, des mouvements sans chef, des mouvements qui font l'actualité peut-être du mouvement social mondial, des mouvements qui cherchent à ne pas avoir de chef, qui cherchent à éviter même la constitution de porte-parole permanent, des mouvements qui ne cherchent pas d'ailleurs, et ce serait, on pourrait reprendre le motif négatif de Honneth en faisant un motif positif ici, qui ne cherchent pas éventuellement la reconnaissance des mouvements, des conflits sans recherche de reconnaissance, au sens peut-être où la reconnaissance impliquerait une reconnaissance plus vaste des règles du jeu, etc., voire de l'instance étatique, etc. Alors que dans certains mouvements, tout est contesté, effectivement. Donc, il y a là quelque chose, effectivement, dans l'actualité, je crois, des mouvements qui va du côté, effectivement, des mouvements sans chef et des mouvements de conflits sans reconnaissance qui tournent délibérément le dos aux institutions, aux partis et aux formes de la politique institutionnelle. Et d'un autre côté, il y a des mouvements intéressants également, me semble-t-il, qui sont parfois d'ailleurs des branches politiques des premiers, qui acceptent certaines formes de représentation et de direction, qui cherchent la traduction politique éventuellement des précédents mouvements. Typiquement aujourd'hui, et c'est un débat interne assez intense en Espagne, c'est l'articulation entre les indignés et Podemos, par exemple avec Podemos, avec la question du leadership politique de tel mouvement, de mouvements qui acceptent donc de cette façon de reposer aussi sur une forme de personnalisation. Alors, beaucoup de théoriciens, disons, de la gauche, considèrent qu'il n'y a de politique que sans leader, sans chef, dans la pure auto-organisation de la multitude, sans médiation, ou dans la mise en acte, sans reste, d'une expérience de l'égalité qui interdirait toute organisation hiérarchique. Je penserais plutôt qu'un des enjeux politiques actuels réside justement dans cette articulation entre, d'un côté, des mouvements d'occupation des places, de résistance à des projets économiques iniques, etc., qui peuvent être des mouvements sans chef, ni même porte-parole permanent, mais l'articulation entre ces mouvements et, d'autre part, des formes politiques de représentation, de direction, qui restent, me semble-t-il, un levier fondamental de l'action politique et peut-être de la rénovation démocratique dont nous avons aujourd'hui tant besoin. Merci.
Merci beaucoup, Jean-Claude Monod, qui vient de... Vous avez ajouté de la matière à la discussion qui va tout de suite suivre, et peut-être aussi montrer que, si je puis dire, si je peux remettre cette exégèse, que Machiavel prête une certaine partialité. Les peuples sans médiation, ou comme les machiavéliens la Pareto, ou l'oligarchie contre le peuple. Mais je devrais prolonger mon point, mais je veux, en exerçant la partialité machiavélienne, donner tout de suite la parole à la salle, et donc à l'occurrence à Danilo.
Merci pour ces exposés très riches. J'ai deux questions, en fait. La première pour Jean-Claude Monod, parce que ce qui m'a toujours frappé dans le livre de Honneth, c'est cette affirmation à laquelle vous avez fait allusion, que Machiavel n'accède pas au concept de reconnaissance parce que les luttes restent subordonnées à l'impératif de l'accroissement du pouvoir. Et parce que là, il y a une autre notion chez Machiavel qui semble échapper à Honneth, et qui est la réputation. La réputation, c'est-à-dire que la France n'est pas tellement tenue à faire accroître sa puissance, son pouvoir, mais il doit se soucier de sa réputation. Et c'est une notion pas du tout anodine qui était aussi au cœur ton débat récent entre Quentin Skinner et Philip Bobbitt dans le New York Review of Books, c'était assez sauvage aussi comme débat. Deuxième question, ton adverse, je me demande s'il ne faut pas rapprocher l'anthropologie philosophique, qu'elle soit pessimiste ou optimiste, de la théologie politique. Parce que c'est qu'il y a, peut-être il y a quelque chose de plus fondamental encore que la méchanceté ou la bonté de l'homme, et c'est la question du péché originel. Et parce que la péché originelle nous renseigne sur la malléabilité ou sur la plasticité du matériau humain. Et je vous renvoie par exemple au débat entre Kojève et Schmitt, où Kojève arrive à la fin de l'histoire sans jamais être obligé de compter sur la bonté de l'homme, par exemple. Ça, c'est juste, et ça aussi explique pourquoi Machiavel peut être une penseur de la liberté, peut-être. Parce qu'il y a aussi, il n'y a pas ce fond chrétien ou pas de la même manière que chez Schmitt.
Oh non, moi je serais très bref, je suis d'accord sur le thème de la répétition. Enfin, il y a plusieurs, je pense, thématiques chez Machiavel, aussi bien dans les discours que dans l'histoire florentine, et sans doute dans Le Prince, qui viennent contre l'idée qu'il aurait une anthropologie de l'individu purement égoïste, qui ne chercherait que son accroissement de pouvoir. Je pense qu'il y a, en tout cas dans son évocation des mouvements et des formes de conflits, de désunion, comme il dit, toutes sortes de motifs moraux qui apparaissent, aussi bien du côté du prince que du... Alors, bon, je pense que pour le prince, c'est plus compliqué, parce qu'il y a une part de jeu, mais en tout cas du côté du peuple, de manière très, très nette, et qui tiennent au souci de l'honneur, d'une certaine façon, voilà, tout à fait.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Danilo, à propos de d'une conception chrétienne qui est à la racine de la vision schmittienne de politique, d'ailleurs très bien explorée par Henri Schmitt. C'est sa thèse. Mais ce que je voudrais mettre en relief, c'est que dans le texte de Begriff des Politiques, de la notion de politique, Schmitt ne fait pas recours à cette conception théologique-là. D'accord? Il est important pour Schmitt de purifier les critères de politique de tout élément. Ouais, c'est ça. En ce point-là, il y a un contact avec la pensée machiavélienne. C'est ça. Mais si on pense à l'ensemble de la réflexion schmittienne dans les années 20, forcément, on va trouver ces présupposés chrétiens, même catholiques, chez Schmitt. Mais pas d'une manière dogmatique. Voilà.
Nicolas Guillaume. Même s'il faut dire, tant que le micro arrive, qu'Aaron lui-même avait reproché à Schmitt à vouloir avancer une anthropologie scientifique sans mentionner l'anthropologie catholique, qu'à son avis, Schmitt trahissait.
Mais... J'y répondrai en plein tes arguments aujourd'hui, parce que j'ai préparé quelque chose sur ça. Donc, je voulais seulement préciser deux choses. La première, c'est la critique autour d'Honnête et de la reconnaissance et de la méconnaissance machiavélienne du travail. Ce n'est pas vrai. Je pense que les pages sur Chompi, sur la révolte des travailleurs dans la laine, dans les discours et dans l'histoire florentine, sont prises deux fois, sont dans ce point de vue absolument fondamental.
Oui.
Le peuple minu, je ne sais pas comment dire en français, popolo minuto.
Petit peuple.
Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, pas seulement là, mais dans tout le rapport entre pouvoir et peuple, entre pouvoir et multitude. La multitude est toujours caractérisée par les termes sociaux. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est extrêmement lié à la thématique d'aujourd'hui politique. Non, on n'est pas des droits ni des gauches. On est contre le pouvoir, on est contre la caste, contre les élites, on est contre... et tout ça. Donc déplacer la dimension des classes sur la dimension du pouvoir, Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai. C'est contre ma définition. Et là, je ne sais pas combien de Machiavel il y a. Dans ce livre sur le pouvoir constituant, on parle aussi de la révolution anglaise, américaine, russe, et tout ça. Donc, les conclusions sont des conclusions tirées sur tous ces éléments. C'est vrai que c'est contre le constitutionnalisme. Tout à fait. C'est contre le libéralisme constitutionnel. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, les mouvements, c'est pas ma faute, hein, c'est contre le... c'est que le constitutionnalisme libéral, il a produit tellement de danger, non, et que les gens réalistes, un peu intelligents, non, disent qu'il faut modifier les choses, de gauche et de droite, justement sur cet axe fondamental. C'est sur cet axe fondamental qu'il faut réouvrir le discours sur le pouvoir. Et, regardez bien, aujourd'hui, par exemple, on dit plus raison d'État. On dit autonomie du politique. Existe encore une autonomie du politique. La raison d'État, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment... on n'a jamais parlé ici du Moyen-Âge, non? Mais on a parlé quand même de Schmitt, non? Et de sa théologie politique, qui est plus moyenâgeuse que ça. C'est difficile à trouver un autre, peut-être Heidegger, non? Voilà. Et à propos, c'est formidable cette thématique de le politique comme technique, c'est quelque chose de totalement heideggerienne, non? Comme la chose devient technique, comme l'Occident devient technique, et il perd sa capacité politique réelle, véritable, et tout ça. Voilà, mais tout ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le problème de la démocratie est un problème qui se pose en dehors du constitutionnalisme.
Philippe Renaud voulait dire un mot, je pense.
Oui, je voulais faire une remarque ou une suggestion à propos de Honnête et de cette question de l'absence ou pas de politique de la reconnaissance. Moi, je crois que sur Machiavel, M. Negri a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut chez Machiavel pour parler d'une certaine manière de la reconnaissance, mais peut-être pas pour satisfaire Honnête, parce que Honnête, me semble-t-il, pense un petit peu dans un cadre qui est celui, je ne sais pas ce qu'il dit, et c'est probablement parce qu'il, je pense qu'il ne le sait pas, qu'il ne le voit pas, mais il pense dans un cadre qui correspond à peu près à la deuxième cause pour laquelle les hommes entrent en lutte dans le Léviathan, c'est-à-dire la glory, qu'on traduit en français par la vain glory. Le raisonnement de Hobbes, comme vous vous en souvenez, c'est que la raison de la guerre de tous contre tous, c'est l'égalité. C'est parce que les hommes sont égaux. Alors, la première raison, comme ils sont égaux, aucun n'est capable de faire dominer sa puissance. Et la deuxième raison, c'est que comme les hommes sont égaux, ils se croient tous supérieurs les uns aux autres. C'est puisque chacun a une confiance dans ses capacités suffisantes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une sorte d'équivalent ironique de la formule de Descartes. C'est si tout le monde est satisfait de sa sagesse et de son jugement, c'est que c'est bien réparti. Mais la vérité dans le système de Hobbes, c'est que comme les hommes sont égaux, ils se croient tous supérieurs les uns aux autres, et ils veulent être reconnus. Vouloir être reconnu, c'est vouloir être reconnu comme supérieur. Alors, je crois que tout le raisonnement de Honnête, en fait, s'inscrit dans cette perspective des luttes contemporaines, qui sont des luttes d'aujourd'hui, qui sont des luttes pour la dignité, où je crois qu'il faut entendre, quand les gens vous disent qu'ils en valent bien d'autres, qu'ils valent mieux. Mais ce n'est pas du tout la perspective qui était celle de Machiavel. Celle de Machiavel, c'est une perspective naïve, d'une certaine manière, dans laquelle les gens disent qu'ils ne sont pas rien. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les ouvriers de la laine, ils ne veulent pas être reconnus comme les égaux des princes, ou comme être supérieurs aux princes ou supérieurs aux grands. Ils veulent qu'on leur reconnaisse une dignité minimale. Et avec ça, vous ne pouvez pas avoir l'espèce d'hégélianisme reconstruit de Habermas et de Honnête qui aboutit à la reconnaissance universelle. Vous ne pouvez rien bâtir de ce type là-dessus. C'est beaucoup plus raisonnable, Machiavel.
Juste, réagi brièvement, mais à vrai dire, moi, c'est un point fondamental de vos réflexions, mais pour lequel je marque toujours une profonde incompréhension. Mais c'est les limites, hein, de, vous disiez, voilà, il y a des limites d'intelligence, j'en fais la preuve, c'est que je ne comprends pas comment on peut valoriser absolument le pouvoir constituant et dévaloriser absolument le constitutionnalisme. C'est-à-dire, si le pouvoir constituant, c'est la source magnifique, etc., jaillissante, mais si elle ne débouche sur rien de durable, si elle ne débouche rien sur un normatif, si elle ne sert à rien dans la durée, j'avoue, je ne comprends pas. C'est une chose. Voilà, c'est...
Le constitutionnalisme, c'est pas ça.
D'accord.
Le constitutionnalisme, c'est un système tout à fait particulier, dans lequel la division des trois pouvoirs, la hiérarchie spécifique qui se détermine de ça, c'est la représentation. La représentation, c'est la représentation comme élément fondamental.
D'accord.
Donc c'est le transfert des volontés, des pouvoirs, etc. Mm-hmm. Est-il possible, ça c'est la question, une forme différente des représentations,
je parle. Et de constitution.
Où est-il possible...
Voire constituer aussi. Non.
Je ne sais pas. Je ne voudrais pas me référer aux soviets, non. Parce que ça, c'est plutôt ambigu, non, désormais le terme. Mais je suis certain, par exemple, que la bonne moitié des gens qui aujourd'hui luttent en Espagne pensent à des formes d'organisation, qui sont des formes de conseils, d'élargissement énorme, de l'organisation et de la institutionnalisation de la volonté populaire.
Parce que c'est un enjeu juridique.
Quelle est la représentation? Comment on fait à dominer cet espace qu'il y a entre nous et le pouvoir? Alors dominer, pas être aliéné sur ce terrain. Peut-être que c'est d'un point de vue métaphysique. Moi, je déteste la métaphysique, donc...
Je ne suis pas sûr.
Je ne sais pas si le micro marche. Enfin, bon, j'avais une question à Philippe Reynaud. Et un commentaire, ou plutôt un commentaire sous forme de question à Alton Adverse, et puis, mais c'est aussi une façon de tracer des liens entre votre présentation et celle de Jean-Claude Monod et ce que disait Tony il y a un instant. Alors, mes questions à Philippe Reynaud. Oui, alors, bon, je suis le premier à savoir qu'on avait 20 minutes et qu'on ne peut pas tout faire en 20 minutes, mais donc vous avez présenté une histoire finalement très conceptuelle et de la raison d'État comme notion unique. Notion unique qui aurait finalement des traditions différentes, des déclinaisons nationales différentes, culturelles, alors France, Angleterre, États-Unis, mais finalement un concept unique qu'on va retrouver. Vous avez parlé d'universalité de la raison d'État, de l'idée qu'il y a une singularité de la politique extérieure, par exemple, et qu'on va retrouver partout. Bon, alors, vous m'avez dit que vous n'aimez pas l'école de Cambridge, mais quand même, il me semble que elle offre des instruments utiles pour historiciser un tout petit peu plus des idées comme ça qui se déploieraient. Et en particulier, je voulais vous demander comment vous vous positionnez par rapport à des travaux peut-être qui reprennent cette notion de façon différente, et notamment dans la foulée de Michel Foucault puis de Sennelard, qui distinguent non pas une tradition de la raison d'État, mais deux. Une qui va partir de Machiavel et qui est essentiellement liée à la guerre, comme compétence numéro un de tout prince, de tout dirigeant, etc. Et l'autre qui sera liée à l'anti-machiavélisme, qui est la raison d'État botterienne, si vous voulez, qui est en fait la police, c'est-à-dire l'économie, le mercantilisme, le physiocratisme, la gestion des populations et des richesses. Celle-là, par exemple, distingue très nettement deux raisons d'État qui sont foncièrement différentes. Donc je veux juste savoir comment vous positionnez par rapport à cette ligne historiographique. La deuxième chose aussi, c'est, bon, je ne sais pas, universel de la raison d'État sur la politique extérieure, probablement, oui, il y a une sorte de majorité comme ça, mais quand même, la révolution américaine a produit des congrès qui, pour les tout premiers, où les partis politiques envoyaient chacun des ambassadeurs à Paris. D'ailleurs, aux grandes dames des puissances européennes qui ne comprenaient pas trop comment se référer à cette diplomatie hyper démocratique. Donc je ne suis pas certain qu'il y a eu toujours, voilà, une universalité de la raison d'État. Enfin, voilà, je voulais vous demander de préciser ces points. Deuxième chose, mais ça revient au débat qui vient d'avoir lieu. Je pense qu'il me semble que cette... la contreposition Schmitt-Machiavel, et j'ai trouvé votre papier extrêmement juste dans l'analyse et la reprise un peu critique de Carlo Galli, etc. Il me semble qu'elle est fondamentale pour comprendre à la fin ces différences, et notamment ces questions de pouvoir constituant et pouvoir constitué. Et je me demande si on ne peut pas aller un peu plus loin même et dire que finalement, la souveraineté, c'est très clair chez Schmitt, et c'est peut-être pour ça que Machiavel à la fin n'est pas un penseur de la souveraineté d'État. La souveraineté chez Schmitt, et c'est très clair, c'est la fin du conflit. C'est on met un terme au conflit, et c'est la clôture du conflit par la constitution, la décision constitutionnelle. C'est, on sort du chaos. C'est ce que dit Schmitt dans trois types de pensée juridique, c'est très clair. Alors que, et c'est là où il y a une différence béante entre Machiavel et Schmitt, au-delà de références superficielles, je pense finalement à l'anthropologie négative religieuse, alors que chez Machiavel, eh bien, la question de la constitution n'est jamais close. C'est justement une question qui reste ouverte. C'est à la fois son expérience historique, mais aussi sa prescription politique. Il ne faut pas la clore. Et c'est justement cet espace où, qui n'est jamais clôturé, donc qui n'est jamais totalement constitué, que le pouvoir constituant est constamment appelé sous des formes qui, effectivement, historiquement varient et qui peuvent prendre une forme, je n'aime pas le terme de dialectique, mais j'en trouve pas d'autre là maintenant, entre des mouvements et des représentations, des mouvements et des leaderships, etc., etc., où ces formes historiques de dialectique peuvent s'inscrire parce que la question n'est jamais close. Voilà. Il faut juste poser ça comme thématique.
Comme vous l'avez dit, on ne peut pas tout dire en 20 minutes. Mais après tout, il faut s'en tenir à ce qu'on a dit. Je ne crois pas avoir dit qu'il y avait une tradition de la raison d'État et pas deux. J'ai pas voulu entrer. J'ai dit que je n'entrais pas dans la discussion sur la généalogie de la raison d'État, sur la généalogie médiévale, etc. Donc j'ai beaucoup de considérations pour le travail de Senlar, qui est un très bon travail, mais c'était pas mon sujet. Alors, ce que je dirais d'abord, c'est que, si on veut entrer dans la discussion de ce qu'il dit, moi j'avais laissé de côté Machiavel, parce que pour qu'il y ait une raison d'État, il faut qu'il y ait un État. Et que, à mon avis, il n'y a pas vraiment de théorie de l'État chez Machiavel. Il y a des quantités de choses très intéressantes, mais je ne suis pas sûr que ça soit très, très approprié de parler de théorie de la raison d'État. Alors, en revanche, si on s'en tient à ce que j'ai essayé d'expliciter, en partant, d'ailleurs, là, je reconnais volontiers ma dette de l'article de Darquin, c'est que le premier caractère permanent de tout ce qu'on appelle raison d'État, c'est l'idée qu'il y a un droit de la nécessité, je me redis, qui autorise une dérogation ou des dérogations au droit établi en fonction d'un intérêt supérieur de l'État. Eh ben, je crois que les deux traditions dont vous avez parlé, elles se rencontrent sur ce point. Aussi bien la tradition qui parle de la politique extérieure que celle qui parle du mercantilisme. Lequel mercantilisme, d'ailleurs, est lié intrinsèquement à l'idée qu'il y a une asymétrie entre l'extérieur et l'intérieur, puisque les conditions de la prospérité intérieure sont les conditions de l'absence de prospérité générale. Ça ne peut pas être plus asymétrique, si vous voulez. Donc je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas réellement de difficulté, il y a simplement le fait qu'il faudrait affiner, entrer dans les détails, ce qui n'était pas mon objet. Alors, pour terminer d'ailleurs sur ce point, j'ajoute que les deux traditions en question, on peut très bien les penser, bien que ce ne soit pas un théoricien de la raison d'État, je vais revenir sur ce point, à partir du texte de Locke sur la prérogative, puisque il se trouve que le pouvoir exécutif, qui s'occupe de la prospérité interne, et le pouvoir fédératif qui s'occupe des relations extérieures, eh ben, ils sont entre les mains de ce que nous appelons le pouvoir exécutif, et que comme le Conseil d'État et comme mon regretté ami Castoriadis, je trouve qu'on ferait mieux d'appeler le pouvoir gouvernemental. Pouvoir exécutif, c'est un terme qui prête à confusion, c'est lié justement à cette conception de la séparation des pouvoirs dont parlait M. Negri à l'instant. Alors, sur le deuxième point, j'ai dit qu'il y avait en général l'idée d'une asymétrie entre la politique étrangère et la politique intérieure. Alors, ce que j'ajouterais, c'est que cette asymétrie ne peut être posée que parce que l'idée d'une identité a été posée antérieurement. C'est parce qu'il y a, comme possible, ou pas, peut-être comme possible rêver, mais comme possible, l'idée que les deux pourraient répondre aux mêmes lois, que des courants de pensée dont j'estime que c'est effectivement eux qui triomphent toujours quand on a de la politique réelle, sont conduits à l'idée d'une asymétrie entre les deux. Alors, le cas de la Révolution américaine, d'ailleurs, est tout à fait exemplaire, c'est-à-dire que Effectivement, au début, quand les Américains ne savent pas très bien où ils vont et qu'on est dans la période créatrice, etc., etc., y a ce que vous dites. À l'arrivée, il y a la Constitution américaine avec le pouvoir exécutif qui est théorisé exactement en fonction de ça. Et il y a les positions, alors qu'on peut estimer tristement réalistes, pénibles, etc., mais qui vont être prises au moment de la question, où la question va se poser de l'alliance ou la non-alliance avec la France révolutionnaire, où là, on est assez intégralement dans la logique que je pose. Et c'est d'ailleurs ce que vous trouvez très bien si vous lisez les débats Helvidius, là, les débats entre Madison et Hamilton sur ce point. Alors, ce que je dirais, si vous voulez, c'est que... Alors, pour répondre de manière accommodante, je dirais que le centre de gravité va vers l'idée de la symétrie. La gravité va vers là, mais il n'y va que parce qu'il y a des forces qui vont ailleurs. Ça, je vous l'accorde volontiers. Voilà. Moi, j'étais un peu long.
Oui. Je crois que vous avez tout à fait raison, et j'ajoute qu'il faut prendre au sérieux la déclaration de Schmitt, d'ailleurs il l'a fait plusieurs fois, qu'il est un juriste. Et sa conception du pouvoir, c'est une conception juridique. Ça, ce n'est pas du tout le cas de Machiavel. Le problème de la loi, comme bien remarqué Jean-Claude Bonneau, la question de la loi, oui, elle est là, elle est posée, mais on ne peut pas dire qu'il a une conception juridique du pouvoir chez Machiavel, pas du tout.
Merci beaucoup. Donc, on se retrouve là à 14h30, dans une heure et demie, pour la troisième table ronde. Merci beaucoup.
D'ailleurs, quand il n'y a pas de...